magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous sommes dans les locaux de l'UNESCO à Paris à l'occasion du sommet Business et Climat qui s'est déroulé cette semaine. 1700 chefs d'entreprise, consultants et économistes ont répondu à l'appel de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui avait demandé au monde économique de s'engager dans la lutte contre les changements climatiques. À 6 mois de la conférence de Paris, c'est une étape essentielle pour que le monde économique, accusé d'être une partie du problème, fasse enfin partie de la solution. Mais dans quelle mesure est-ce réaliste? Avec nous pour en parler 3 invités, Sandrine Dixon-Declève, très active à de nombreux titres dans la lutte contre les changements climatiques auprès des entreprises. Pierre-André Chalandard, président directeur général de Saint-Gobain et président du réseau Entreprises pour l'environnement, co-organisateur de ce sommet. Et Brice Lalonde, actuellement conseiller spécial du Global Compact, le pacte mondial créé par les Nations Unies pour inciter justement les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable, co-organisateur aussi de ce sommet. Alors Pierre-André Chalandard, je le disais, vous êtes co-organisateur de ce sommet. Alors, il y a seulement 20% des orateurs qui viennent des pays en développement, 40% sont français, 10% sont américains. Pourtant, on sait que l'un des blocages, hein, c'est la crainte de ne plus être compétitive, justement, dans son secteur. C'est la concurrence. On se dit, si moi, je fais des efforts et que l'autre n'en fait pas, ça va être un blocage. Donc, comment est-ce qu'on explique le fait que tous les pays ne soient pas représentés à part égale dans ce sommet ?
Écoutez, on a essayé d'en avoir le plus possible. L'ambition de ce sommet, au début, était plus modeste. Et puis, ça, on a été même surpris par le momentum qu'il y a eu et le fait que beaucoup ont voulu venir. Donc, on a quand même une représentation, je crois, de beaucoup de chefs d'entreprise dans beaucoup de pays. Mais sur le fond, le problème que vous soulevez, c'est celui-là, le principal. Et c'est d'ailleurs la grande difficulté que vont avoir les négociateurs et sur lesquels il faut que les États arrivent à se mettre d'accord. C'est que les États de différents pays doivent partager le fardeau. Et donc le débat, c'est que un certain nombre de pays émergents considèrent que ce sont les pays développés qui ont contribué à la situation dans laquelle on est, et les pays émergents, à l'inverse, comme ils vont se développer plus, ce sont eux qui vont être les plus gros émetteurs dans le futur. Donc il y a un équilibre à trouver qui n'est pas facile. Mais c'est sûr que pour les entreprises, la compétitivité est indispensable. Et pour prendre un exemple très simple, si parce que vous avez, que ce soit une régulation ou un prix, que vous êtes amené à déplacer les usines qui existaient pour fabriquer des produits dans une région du monde, les mettre dans une autre région du monde, vous aurez supprimé de l'activité économique à un endroit, mais vous n'aurez absolument pas contribué à limiter les gaz à effet de serre. Donc c'est toute la problématique, et c'est pour ça qu'il faut arriver à ce qu'il y ait un accord équilibré. Donc c'est ça qu'on nous appelle, et c'est ça qui n'est pas facile.
Oui, c'est vrai, Brice Lalonde, si on devait calculer les émissions de gaz à effet de serre de la France, par exemple, en ajoutant tous les produits importés, on serait à plus 14% par rapport à 1990, alors que aujourd'hui, on se targue d'avoir baissé nos émissions.
Pour l'instant, les négociations se font sur chaque territoire national. Et d'ailleurs, c'est assez frappant parce que, en ce moment, la Chine a dépassé la France par habitant. Et donc, il y a plusieurs manières de calculer ce que disait Pierre-André de Chalandard. C'est la recherche de la justice et de l'équité. C'est extrêmement difficile à 196 États. Mais alors, on compte, par exemple, les émissions cumulées depuis que Lafayette est allé sur son Hermione aux États-Unis. Eh ben, à ce moment-là, ce sont les États-Unis qui sont les plus grands émetteurs. Mais la Chine n'est pas loin derrière, elle va bientôt la rattraper. Et en effet, ce sont les pays en développement maintenant qui émettent plus, alors que au siècle dernier, c'était les pays développés du siècle dernier, en quelque sorte. Et si on compte par habitant, alors là, c'est très différent. Ce sont les pays du Golfe Persique, c'est l'Australie, ce sont les États-Unis qui envoient le plus par habitant. Donc, la quadrature du cercle, c'est comment est-ce qu'on peut trouver un système.
Alors, Sandrine Dixon-Declève, c'est vrai que c'est important que ça se passe vraiment au niveau international. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait, les négociations qui se passent au sein de l'ONU, au niveau des États, coincent un peu les entreprises qui résonnent au niveau international, et plus par secteur que par zone géographique.
Je trouve que d'abord, il faut qu'on ait des possibilités de s'exprimer comme cette conférence et de voir ce momentum qui est en train de se construire, qui est assez fabuleux en fait, au niveau international. Mais je dirais qu'au niveau de la représentation, même si peut-être il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont venues de différents pays, il y a toutes les organisations qui travaillent dans tous les pays qui sont là.
Parce qu'il y a beaucoup de réseaux. Hein.
Il y a beaucoup de réseaux. Et donc, les représentations et les représentants de ces réseaux-là représentent en fait beaucoup d'industries. Nous travaillons avec 6 autres organisations. On est la plus grosse coalition d'organisations qui s'appelle We Mean Business. Donc, on dit le vrai business au niveau du changement climatique. Et on représente en fait toutes les grosses compagnies venant du monde entier dans différentes juridictions. Donc je crois que ça, c'est déjà important. Maintenant, l'autre partie de votre question, c'est qu'il faut travailler au niveau international, mais c'est essentiel qu'au niveau d'entreprise, on dit la même chose au niveau national, au niveau national, au niveau régional. Donc on continue à démontrer qu'il faut absolument qu'on aille de l'avant. Et pour en revenir au niveau des Chinois et des Américains, il faut dire qu'on a quand même maintenant des objectifs venant des deux pays qui démontrent qu'ils commencent à se rejoindre à l'Europe. Et ça, c'est fabuleux et aussi fondamental au niveau européen. Parce que on avait des difficultés à justifier au niveau des entreprises qui ont vraiment démontré qu'il fallait aller plus loin, ce leadership européen au niveau compétitivité, sans avoir les Chinois et les Américains avec nous. Donc je crois que c'est très important.
Et puis il y a le rôle du secteur financier, hein. Il y avait d'ailleurs le Finance Day à Paris vendredi. Les acteurs du monde de la finance sont venus à l'invitation de la Caisse des dépôts et de la Banque européenne d'investissement pour répondre à une question: comment réduire les financements carbonés et inversement favoriser les investissements verts? Une question clé alors que deux ONG, les Amis de la Terre et Oxfam, ont dénoncé cette semaine le soutien des banques et de certaines entreprises françaises à l'industrie du charbon. Et oui, nous en sommes encore là, on va en parler avec vous, mais tout d'abord j'aimerais que vous écoutiez les propos de Lucie Pinson, des Amis de la Terre.
Depuis 2005, ou même depuis les années 2000, donc on voit que la production de charbon ne cesse d'augmenter. Les banques ont développé un discours montrant leur engagement à lutter contre les changements climatiques. Et pourtant, lorsqu'on regarde les chiffres, on voit très bien que les banques françaises, donc BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Banque Populaire Caisse d'Épargne, via leur branche de financement et d'investissement qui est Natixis, ainsi que Crédit Mutuel, mais dans une moindre mesure, ont soutenu le secteur du charbon, donc l'énergie, comme vous l'avez rappelé, qui émet le plus de CO2, à hauteur de plus de 30 milliards d'euros entre 2005 et avril 2014. Et plus les banques parlent climat, plus elles financent cette industrie extrêmement polluante, puisque leur soutien au secteur du charbon a augmenté de 218% entre 2005 et 2013.
Alors ça place la France en quatrième plus gros financeur de charbon, mais ça représente seulement 8% des financements mondiaux. Mais il y a un cas qui est intéressant, c'est le cas de l'Afrique du Sud, où là, on voit clairement ce que ça donne sur le terrain.
En effet, alors l'Afrique du Sud, l'économie sud-africaine est fondée sur le charbon, système énergétique qui produit plus de 90% de son électricité à partir de charbon. Et alors qu'au niveau international, la part du charbon dans la combustion des énergies fossiles est responsable de 44% de ses émissions, en Afrique du Sud, le charbon, c'est 79% des émissions induites par la combustion des énergies fossiles. Donc on a vraiment une présence du charbon qui est là et qui a ses impacts sur le climat, mais également sur les populations. Et en 2009, malgré ça, malgré une catastrophe avérée sur le terrain et sur le climat, les banques françaises, donc toutes celles que j'ai nommées, ont soutenu pour 1,8 milliard d'euros des projets de deux centrales à charbon, les centrales de Coussilé et de Medupi, destinées alors à devenir les troisième et quatrième plus grosses centrales au monde.
Alors, il y a des entreprises aussi hein, qui sont impliquées.
Alors, en effet, si on en trouvait les cinq banques françaises, c'était pas pour rien, c'est parce que les turbines ont été vendues par Alstom, entreprise française, avec le soutien de la COFAS, l'agence de crédit aux exportations de l'État français.
Alors la COFAS, depuis, a pris des engagements pour ne plus, justement, accompagner ce type de crédit.
En effet, en début d'année, la France a annoncé clairement que la COFAS ne soutiendrait plus de nouveaux projets de centrales à charbon dans les pays en développement. Mais au niveau des banques françaises, on attend toujours leur engagement, puisque jusqu'à présent, il y a eu de beaux discours pour mettre en avant leur financement au secteur des énergies renouvelables, mais aucun engagement de prix concernant leur financement aux énergies fossiles et en particulier au secteur du charbon.
Alors l'un des arguments des banques, c'est de dire que c'est aussi favoriser le développement avec une énergie pas chère dans des pays qui en ont besoin, ce qui est notamment le cas de l'Afrique du Sud.
Alors en Afrique du Sud, c'est pas du tout le cas, puisque la population n'utilise que entre 16 et 18% de l'électricité totale produite, alors que les industries et le secteur minier en utilisent 60%. Et alors que les populations sont impactées par un prix croissant de l'électricité. Les entreprises, elles, bénéficient d'un tarif très inférieur, jusqu'à 7 fois inférieur à ce que paient les populations. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les coûts vont croissant pour la production d'électricité à partir de charbon, alors que les renouvelables sont de moins en moins chers, et déjà les renouvelables sont compétitives avec l'électricité produite à partir de charbon en Afrique du Sud, et il est déjà prévu qu'elles seront au moins un tiers moins chères que l'électricité qui sera produite à partir des centrales qui ont été financées par les banques françaises.
Alors le Crédit Agricole a annoncé jeudi dernier lors de son Assemblée Générale qu'il mettait fin au financement des activités d'extraction du charbon. Mais c'est vrai, Brice Lalonde, que rares sont les banques qui font ce genre d'annonce. On ne peut pas dire que ces investissements aillent dans le bon sens.
Alors d'abord, je voudrais féliciter Madame Pinson des Amis de la Terre, c'est ça? Je pense qu'elle a vraiment fait un bon travail et je pense que c'est tout à fait excellent que les ONG me fassent leur travail et critiquent, parce que là, je pense qu'il y a matière à critique, en effet. Je dirais aussi, alors, je vais pas parler au nom des banques, mais c'est assez difficile, évidemment, quand vous avez le client qui veut absolument telle ou telle source d'énergie, et la banque peut dire je refuse, il y en aura une autre qui dira j'accepte. Parce qu'il y a encore aussi dans le charbon des marges de progression si vous utilisez des techniques ultra critiques, comme on dit, c'est-à-dire qui utilisent un peu mieux le charbon, c'est déjà mieux que ce qu'il y avait avant.
Enfin, une centrale à charbon, ça vit 40 ans, hein.
Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. La Chine, l'Inde sont en train de construire des dizaines de centrales à charbon. Et donc, si vous voulez, il faut aussi que les ONG comprennent que le client principal, le donneur d'ordre, c'est l'État, encore une fois, qui veut absolument construire ses centrales à charbon et qui choisit sa technique. Et de toute manière, il va choisir une autre banque et il demandera ensuite... Je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès dans les banques, contrairement à ce qui est dit. Il y a maintenant de plus en plus dans les banques un effort, des lignes directrices, comme on appelle ça, et un effort éthique, comment fait-on, qu'est-ce qu'on accepte, etc. Donc je ne crois pas que ça aille dans le sens d'une augmentation permanente du financement par les banques françaises. Je crois au contraire que les banques françaises sont en train de réfléchir davantage, travaillent ensemble et sont en train de participer à ce mouvement de désinvestissement ou de décarbonation de leurs prêts, de leurs activités. Et vous savez, il y a aussi les fonds de pension qui ont des... Alors on leur a dit, sortez. Il y a eu une grande discussion en ce moment. Et il y a des gens qui disent, ok, je me retire complètement de tout ce qui est charbon. Et d'autres disent, écoutez, non, parce que si je me retire, je préfère garder quelques actions de manière à pouvoir contrôler l'entreprise, parce qu'autrement, je vends tout et ceux qui vont racheter s'en foutent complètement. Et donc c'est une question qui n'est pas si simple que ça, quoi. Voilà.
Alors Pierre-André de Chalandard, c'est là où il faudrait un prix du carbone.
Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. La solution, on la connaît. Alors le problème, c'est qu'elle va mettre du temps. C'est pas facile, mais il faut un prix du carbone. Et il faudrait avoir le même prix du carbone mondial partout. Et il faudrait avoir une idée, c'est ça qui est encore plus important pour les entreprises, avoir un prix prévisible à long terme. Si on sait que dans 10 ans, le prix du carbone, il va monter encore, eh bien, l'investissement pour construire une nouvelle usine, une centrale à charbon, bah, il ne fera pas de sens sur le plan économique.
Alors,
c'est ça la bonne solution. Mais c'est pas facile d'y arriver. Je crois qu'il y a une prise de conscience importante qui se fait. La responsabilité sociale dans l'entreprise, dans les banques, a fait d'énormes progrès aussi, comme dans les entreprises industrielles depuis quelques années.
Voilà, ça ne va pas assez vite, mais ça évolue dans le bon sens.
Voilà.
Sandrine Dixon-Declève, c'est vrai que sur ce prix du carbone, vous souhaitiez réagir. Alors, il faut peut-être expliquer quand même aux auditeurs ce que ça veut dire, un prix du carbone.
Donc, en fait, un prix du carbone, ça veut dire qu'on prend en compte les effets des différentes entreprises dans le prix final, donc les externalités, on appelle ça. Et je dirais que, oui, on progresse très fort. D'abord, bien sûr, parce que l'Europe a commencé avec un prix du carbone et un système d'émissions.
Mais ça marche pas très bien, hein.
Ça ne marche pas très bien, mais ça marche mieux qu'on croit. On vient de faire une évaluation, en fait, de différents pays et de différentes entreprises. Et même les entreprises qui étaient contre le prix du carbone, on voit que ça a stimulé un changement au sein de ces entreprises.
Oui, mais aujourd'hui, le prix du carbone en Europe est très très bas. Donc
mais justement, ce que je veux dire, c'est que ce prix du carbone a changé la façon dont l'entreprise a fonctionné et a commencé à faire que ces entreprises ont quand même réagi pour diminuer leurs émissions. Donc, ça a eu un bénéfice. Deuxièmement, on travaille, et il y a beaucoup de sociétés qui travaillent avec la Banque mondiale. On a monté avec la Banque mondiale une coalition de pays. On est plus maintenant de 90 pays, je crois, en tout, et même peut-être plus, qui travaillent ensemble, ainsi que de sociétés. Troisième chose, il n'y a pas que le prix du carbone. Il faut absolument arrêter les subsides pervers pour l'énergie fossile. Et ça, par exemple, en Afrique du Sud, comme pour l'instant, le prix est bas, partout au niveau de l'énergie fossile.
Mais on devrait pouvoir,
non seulement parce qu'il y a des subventions, mais pour l'instant, le pétrole est le plus bas qu'on l'a vu depuis 2 ans. Et si on pourrait éliminer les subsides, oui, on pourrait tout de suite, en fait, éliminer et réduire 13% des émissions à effet de serre au niveau global. C'est énorme. Donc, il y a différents mécanismes qu'il faut qu'on mette en place. Quatrième chose, au niveau des banques, on commence, et ça évolue énormément. Mais il faut dire aussi que les banques travaillent avec des critères, aussi avec des façons de partager le risque. Si on veut vraiment avancer, il faut aussi changer le système bancaire. Et il faut changer la façon dont les gouvernements travaillent avec les banques aussi. Et ça, en fait, on a publié un papier qu'on va sortir ce soir justement là-dessus pour donner des recommandations au gouvernement de comment on peut travailler ensemble et mettre en place les bons critères pour qu'on puisse commencer à vraiment changer les investissements vers la décarbonisation.
Pour donner un exemple, je crois que c'est le plus parlant de comment on joue les prix, le prix du carbone. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé sur l'essence pour les voitures, voilà, en comparant depuis 30 ans l'Europe et les États-Unis. L'Europe taxe beaucoup l'essence pour le particulier, les États-Unis pas du tout. On constate que la consommation des voitures américaines, hein, elle est beaucoup plus importante que la consommation des voitures européennes. Parce que les gens font plus attention, parce que les constructeurs ont été beaucoup plus poussés à faire des moteurs plus propres. Donc c'est ça, vous voyez, le signal prix, c'est très important pour changer les comportements de tout le monde. Et c'est ça qu'il faut faire sur le carbone.
On sent bien que la dynamique est en marche. Il y a de nombreuses entreprises qui s'engagent dans de bonnes trajectoires. On en parle juste après une petite pause musicale.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
C'est pas du vent sur RFI, installé dans les locaux de l'UNESCO à l'occasion du sommet business et climat qui s'est déroulé cette semaine à Paris. L'un des grands refrains de ce sommet est que la lutte contre les changements climatiques ne doit pas être perçue comme une contrainte mais plutôt comme une opportunité. Et c'est aussi le discours des organisations qui ont lancé l'initiative Science Based Targets, des objectifs basés sur la science. L'idée est d'inciter les entreprises à aller plus loin dans leurs engagements en mobilisant tout d'abord 100 d'entreprises pilotes d'ici la fin de l'année, comme nous l'explique Alberto Carrillo, responsable du secteur entreprise et climat au WWF International.
Sur les 500 plus grandes entreprises du monde, 80% ont des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou de gestion de l'énergie. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça fait déjà un nombre d'entreprises prêtes à agir pour le climat.
Il y a beaucoup d'engagements, mais est-ce que ces engagements sont en lien avec ce que dit la science?
C'est bien là le problème. Seulement une douzaine d'entre elles font vraiment des efforts pour contenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés. Dans la plupart des cas, les entreprises ont défini des objectifs basés sur leurs intérêts stratégiques et en fonction de ce que font leurs concurrents, mais jamais en lien avec le niveau de réduction d'émissions qu'il faudrait atteindre pour lutter efficacement contre les changements climatiques.
Vous lancez un appel ici au Business Climate Summit en demandant à une centaine d'entreprises de mettre en place une stratégie de réduction d'émissions en lien avec la science. C'est assez court d'ici la fin de l'année.
Oui, le délai est court, mais l'idée, c'est que les entreprises s'engagent dès maintenant, puis nous les aiderons ensuite à atteindre leurs objectifs. Nous pensons que l'objectif de mobiliser 100 entreprises est ambitieux, mais atteignable, et surtout, il permet d'atteindre une masse critique. À partir du moment où une centaine d'entreprises s'engagent, les autres vont suivre, et ça peut faire tache d'huile.
Est-ce que vous avez déjà des exemples inspirants pour les entreprises, certaines entreprises qui se sont déjà engagées de façon vraiment efficace?
Oui, nous avons quelques exemples. Nous avons commencé cette démarche basée sur la science aux États-Unis il y a environ 2 ans. En lançant une campagne appelée « La solution des 3%. ». Cette solution montre que les compagnies sont non seulement capables de s'aligner sur ce que recommande la science, mais qu'elles en tirent des profits. Elles découvrent de nouvelles perspectives pour faire des économies. Nous avons des compagnies américaines comme Hewlett-Packard, Bloomberg et d'autres comme Mars qui ont accepté de s'engager dans des objectifs innovants et ambitieux de long terme. Elles n'ont pas tout résolu, mais elles vont y arriver. Je dirais que les entreprises commencent enfin à comprendre que innover et investir dans la lutte contre les changements climatiques et plus généralement, dans les stratégies de durabilité, c'est désormais une obligation compte tenu des limites des ressources de la planète.
Sandrine Dixon de Clèves, c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est que en fait la lutte contre les changements climatiques pour les entreprises, c'est une opportunité plus qu'une contrainte.
Une opportunité et aussi une possibilité, je dirais, de démarche économique aussi. Donc, on a pour l'instant, on essaye de créer une vision de la nouvelle entreprise, mais même l'entreprise qui est existante. Ici, en Europe, par exemple, on a les possibilités de travailler même avec les intensives, les producteurs de papier qui commencent à essayer de regarder de nouvelles technologies où ils pourraient, en fait, réduire leurs impacts sur l'environnement. Donc, travailler dans l'innovation, et créant des nouvelles solutions technologiques, mais aussi avec les entreprises qui existent, trouver ces opportunités pour en fait faire partie de la société de demain. Et je crois que l'innovation aussi, si on parle de l'entreprise, il faut aussi dire que maintenant, on a de nouvelles procédures et de nouvelles façons de travailler ensemble aussi avec les gouvernements. Au sein, par exemple, des villes. Donc les villes sont de plus en plus incluses dans ce débat. Travailler ensemble pour trouver des solutions et technologiques, mais aussi financières, pour essayer de vraiment changer la ville, pour qu'elle devienne en fait beaucoup plus propre et décarbonisée, ça devient très excitant. Pour le citoyen, ainsi que pour tous les autres. Et une dernière petite réflexion peut-être, c'est que en fait ce qu'on a vu, c'est que cette vision doit être créée vraiment au niveau des différentes sociétés, des différentes communautés. Donc la façon qu'on crée cette vision, par exemple en Pologne, c'est de dire en fait vos centrales de charbon, on va les convertir, on va vous trouver du boulot, on va essayer de trouver quand même un plan social pour pouvoir agir, diminuer la pollution, mais vous trouvez aussi une nouvelle type de société qui peut être en fait sous une autre type d'énergie et vous pouvez en faire partie. Ça, je crois que c'est fondamental.
Pierre-André Chalandard, c'est vrai que c'est l'un des grands enjeux parce qu'il va y avoir des gagnants et des perdants quand même dans cette histoire.
Moi, j'ai de la chance parce que la stratégie de Saint-Gobain, c'est d'être la référence de l'habitat durable. C'est toute notre stratégie. Donc pour moi, c'est une opportunité formidable.
Oui, mais comme vous êtes dans un réseau et que vous êtes dans l'organisation sociale, il y a une question qui m'a.
Il y a une question. Non, mais si je prends. Il y a une question. Mais je pense que beaucoup d'entreprises pour l'environnement, c'est ça. C'est toutes ces entreprises qui se disent, ce sont des opportunités. Et je pense que les opportunités de la croissance verte. Parce qu'il ne faut pas opposer lutte contre le réchauffement climatique et décroissance. Et la croissance verte, c'est un moteur considérable pour la croissance de demain, pour créer des emplois. Donc je crois que c'est vraiment une opportunité. Moi, quand on parle d'économie d'énergie, je dis, je ne fais pas faire des économies d'énergie dans le bâtiment. On va améliorer le confort thermique. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas opposer durable et punitif. Confortable. Mmh. Et oui, parce que, en fait, c'est vrai. Une maison bien isolée, avec des instruments de mesure, ben, on a un meilleur confort thermique. On n'est pas surchauffé à certains moments ou pas assez, donc on règle mieux et on consomme très très peu d'énergie pour faire ça. Donc, si vous voulez, il ne faut pas opposer le monde de demain plus durable et un retour en arrière, une régression. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les entreprises. C'est du business. Hein. Il y avait dans un panel, on disait la question, qu'est-ce que vous avez fait concrètement comme investissement pour le changement climatique ? Ben moi, si on m'avait posé la question, j'aurais répondu, ben, vendre plus. Hein. Plus je vends de produits de Saint-Gobain, et plus il y a des économies d'énergie, donc on contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Oui, parce que vous êtes dans le bon secteur.
Mais je pense que beaucoup d'entreprises, elles ont des opportunités. Alors, c'est vrai
mais certaines veulent se convertir quand même, hein.
Ben moi, je vais faire aussi des efforts dans certains domaines. Je vais essayer et j'arrive. Je me suis donné les objectifs de réduire de 20%, ce qui est pas facile parce que pour faire du verre, il faut beaucoup d'énergie.
20% vos émissions d'ici.
Mes émissions d'ici 2025, c'est pas facile. Donc il y a des efforts à faire, mais je pense que l'opportunité, elle est pour beaucoup d'entreprises très importante. L'innovation change le monde à toute vitesse en ce moment. Mais c'est partout. Le numérique va changer les choses de façon considérable, mais c'est vrai que plus, quand on sait que des choses vont coûter plus cher et des choses vont coûter moins cher, eh bien, ça oriente la recherche, ça oriente les investissements. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre clair qui nous soit fixé par les gouvernements, la direction dans laquelle aller. Et ce momentum qui est en train de se créer, il est extrêmement important. Hein, et c'est vrai, on va avoir des courbes exponentielles sur tous ces sujets.
D'où l'importance d'avoir un accord ambitieux à la conférence de Paris.
L'accord est indispensable, mais le travail de tous encore plus indispensable.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour avoir monté ce studio à l'UNESCO, enregistré et réalisé cette émission. Pour réagir ou poser des questions, n'hésitez pas à nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, #c'estpasduvent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.